Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette émission Libre Journal de Benjamin Blanchard. Et bien sûr, je suis avec Henri de Villiers. Bonsoir, cher Henri.
Bonsoir, cher Benjamin.
Et voilà, donc je rappelle que vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile qui chante à paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement. Chaque dimanche, la grand-messe de 11h et les vêpres à 17h45, ainsi qu'en semaine à 19h pour les fêtes importantes, le tout diffusé en direct et différé sur la chaîne YouTube Itemisaes, puis également sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, TikTok, Instagram, Twitter,
Twitch,
Vcontact, tout ce que vous voulez. Oui. Et puis également à la
Facebook même, c'est dire.
Facebook, c'est pour les plus anciens, qui chante à la paroisse de la Très Sainte Trinité, paroisse russe catholique. À pas confondre avec celle du 9e arrondissement.
Et puis à celle à la nouvelle cathédrale russe orthodoxe de la Sainte Trinité.
Du Quai Branly.
Quai Branly, voilà.
Donc là, c'est la Très Sainte Trinité. Là,
nous sommes la Très Sainte Trinité.
Donc c'est rue François Gérard dans le 16e arrondissement, juste à côté de l'église d'Auteuil. Donc le dimanche, les matines, ou plus souvent la divine liturgie, sont à 9h.
Oui.
Et donc, nous sommes dans notre série d'émissions à découverte des églises d'Orient, épisode 112 et le 46e consacré à la Russie. Mais avant de reprendre le cours de l'histoire russe, nous sommes sous le règne de Pierre le Grand, donc au tout début du 18e siècle, nous allons parler de la fête liturgique du jour.
Voilà. Alors, déjà, peut-être un petit mot quand même sur la fête liturgique de dimanche dernier, puisque c'était, en tout cas dans le calendrier julien, c'était la fête de la Pentecôte, qui coïncidait dans le calendrier grégorien avec la fête de la Trinité latine, dans le calendrier de l'Église romaine. C'était la fête patronale de notre paroisse de la Très Sainte Trinité, puisque la fête de la Trinité dans le rite byzantin est célébrée en même temps que la Pentecôte, parce qu'on estime que la descente du Saint-Esprit sur les apôtres apporte la plénitude de la révélation trinitaire. On sait désormais que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, puisqu'on a reçu le Saint-Esprit. On a vu le Verbe de Dieu incarné qui nous a fait connaître le Père, et on reçoit de lui l'Esprit divin. Donc nous avons la plénitude de la connaissance de la Trinité, ce qui fait que la fête de la Pentecôte, bizarrement peut-être pour un esprit occidental, dans le rite byzantin, est à la fois la fête de la descente du Saint-Esprit et la fête de la Trinité. Ce n'était pas primitif. Primitivement, on fêtait vraiment la Pentecôte, et puis au cours des âges, on a ajouté une deuxième couche hymnographique avec des hymnes propres à la Trinité.
Ah oui, il y a quand même, on distingue les deux.
Oui, il y a vraiment des tropaires ou des stichères qui chantent l'événement majeur de la descente sur les apôtres au Cénacle. Et puis,
parce que c'est quand même deux choses différentes. Il y a d'un côté un événement historique,
voilà.
Et de l'autre
une réalité théologique.
Voilà, un concept.
Et finalement, le lundi de Pentecôte est le jour où on prie plus spécialement le Saint-Esprit, ce qui a fini par dire que c'était la fête du Saint-Esprit le lundi de Pentecôte. Bon. Voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est la fête patronale, donc puisque l'église de la Sainte Trinité, c'est la Pentecôte qui est la fête patronale de la Très Sainte Trinité, pardon. Parce qu'il y a la Trinité à Paris, il y a la Sainte Trinité et la Très Sainte Trinité. Et donc, nous avons fêté avec joie cette belle fête de notre paroisse. Et curieusement, ce dimanche, donc ce soir, dès ce soir, c'est la fête de la Toussaint. Alors ça peut être étonnant pour un esprit occidental.
Mais pas étonnant si vous avez suivi ces émissions depuis un certain temps, puisque oui. Nous l'avions, je ne sais pas si c'était l'an dernier ou il y a deux ans, mais vous y aviez consacré une partie d'émission.
Et voilà, et en fait la logique est assez belle, je trouve. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit que nous pouvons nous-mêmes devenir ça, en fait.
Sachant qu'il y a plusieurs fêtes de la Toussaint, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, c'est parfaitement exact. En fait, il y a une Toussaint générale, c'est aujourd'hui, c'est ce soir et demain, ce dimanche. Et ensuite, il y a des Toussaints particulières. Donc, dimanche prochain, dans une semaine, ce sera la Toussaint, tous les saints de Russie. Donc, on va fêter tous les saints qui ont illuminé la terre de Russie.
Après, il y a des saints par diocèse, peut-être ?
Par diocèse, par province, les saints de Novgorod, les saints de Biélorussie, par exemple. Voilà, souvent, c'est à peu près dans cette période, mais parfois, ça peut être à d'autres moment de l'année. Ça peut être aussi tous les saints d'un grand monastère. On fête tous les saints en même temps. Et c'est quelque chose qui a existé aussi en Occident, puisqu'on a dans beaucoup d'ordres religieux les fêtes de tous les saints de l'ordre qui est souvent placé autour de la fête de la Toussaint latine, en fait, hein, le 1er novembre. Voilà, donc ça peut être étonnant, mais je vous souhaite à tous une bonne Toussaint, hein, en ce dimanche 7 juin. mais en tout cas, une Toussaint byzantine. Alors, historiquement, cette fête a été créée à Constantinople. C'est la même histoire que l'origine de la Toussaint à Rome. C'est une dédicace d'église, en fait, qui a motivé cette institution liturgique. À Rome, c'était la dédicace du Panthéon, ce vaste tombeau païen impérial qui avait été transformé en basilique de Sainte-Marie de tous les martyrs au VIe siècle. Et c'était cette célébration, cette dédicace à tous les martyrs qui a été l'origine de la fête de tous les saints. À Constantinople, c'est pareil, c'est la dédicace.
C'est toujours le vocable du Panthéon ?
Oui, Sainte-Marie des martyrs. C'est l'empereur Léon VI le Sage, à la fin du 9e siècle, début du 10e siècle, à Constantinople, qui a édifié une église de tous les saints, qu'il a construite juste à côté de l'église des 12 apôtres, qui est une des grandes églises de Constantinople. Et en fait, pour la petite histoire, Léon VI avait été marié à une impératrice, l'impératrice Théophano, et puis d'un commun accord, ils avaient décidé de surseoir au lien du mariage et Théophano avait choisi de prendre le voile et d'entrer au monastère des Blachernes. Et elle est morte dans ce monastère en odeur de sainteté. Mais l'empereur ne voulait pas créer une fête de Sainte Théophano parce qu'on pouvait dire que c'était un peu bizarre que l'empereur canonise sa femme, son ancienne femme. Et en fait, on a placé, comme les reliques de Théophano accomplissaient des miracles, il fallait quand même faire quelque chose. Donc on a placé les reliques de l'impératrice dans cette nouvelle église, mais on ne l'a pas dédiée à Saint Théophano, on l'a dédiée à tous les saints, voilà, pour être un peu moins explicite, en fait. Et c'est l'origine de cette... De cette fête de ce dimanche, en fait, puisque voilà. Mais, en tout cas, je trouve que la fixation de la fête de tous les saints au dimanche qui suit la Pentecôte est assez géniale, puisque c'est bien l'Esprit Saint qui est la source de toute sainteté. Et ça conclut magnifiquement le cycle pascal, puisque on a commencé le triode, c'est-à-dire tous les dimanches d'avant-carême, par la chute d'Adam. Et en fait, bah, on a la rédemption qui est accomplie, le Christ qui est ressuscité, qui nous a sauvés sur sa croix et qui nous a sanctifiés et rétablis dans la pleine communion avec le Père. Et donc, nous sommes saints. Donc, on a une logique magnifique. Voilà, alors on va... c'est une fête importante, mais pas une grande fête. Elle n'a pas l'importance qu'on peut avoir en Occident avec la Toussaint. On ne va pas avoir un grand répertoire musical. Donc, je n'ai pas des extraits musicaux nombreux et ils ne sont pas d'une extraordinaire qualité, ne m'en voulez pas. C'est souvent des chants liturgiques interprétés directement dans les églises. Donc, voilà, pour des grandes fêtes, pour des fêtes majeures,
on a
des compositeurs aussi qui vont faire des compositions propres, alors que là, ce sont des tons communs qu'on emploie. Donc, on va écouter successivement, en fait, les deux pièces essentielles de ce jour, comme à chaque fois, c'est le Troper et le Condacion. Le Troper de tous les saints, ton 4. Paré du sang de tes martyrs du monde entier comme de pourpre et de lin, ton Église te clame par leur intercession au Christ Dieu. Étends ta compassion sur tes fidèles, accorde la paix à ton peuple et à nos âmes la grande miséricorde. Et le Cône d'Achillée, puisqu'on va avoir un enregistrement avec les deux, ton 8, comme prémisse de la nature à toi qui fais pousser la création, le monde entier t'offre, Seigneur, les martyrs théophores. Garde ton Église dans une paix profonde par leurs supplications et par les prières de la Mère de Dieu, ô très miséricordieux.
Écouter le Tropaire et le Condac de la fête de tous les saints.
Voilà. Alors, un mot sur les chanteurs, en tout cas la circonstance de cet enregistrement qui est pris en direct, hein, donc il n'a pas une qualité de studio, hélas, désolé, chers auditeurs. Eh bien, ces deux pièces ont été chantées à la fin de la liturgie pontificale du dimanche après la Pentecôte, jour de la Toussaint, à Minsk. C'était une liturgie célébrée par le métropolite Pavel de Minsk en 2018, qui est l'exarque du patriarche de Moscou pour toute la Biélorussie, puisque en Biélorussie, il n'y a pas une église biélorusse, c'est l'église de Moscou qui est présente, avec une certaine autonomie, comme c'était le cas en Ukraine avant les...
C'est toujours
le cas, de façon un peu plus compliquée maintenant, mais... le patriarche de Moscou est patriarche de toutes les Russies. Voilà. C'était donc à la cathédrale du Saint-Esprit de Minsk. Et nous écoutions le chœur épiscopal de Minsk sous la direction de Vitali Sobolevski. Alors, ce dimanche, il y a également coïncidence de fête, puisque outre... la fête de tous les saints, qui est le premier dimanche. Alors, le Saint-Esprit, c'était lundi.
Ah oui,
lundi dernier.
C'était la Pentecôte.
Pentecôte. Eh bien, nous avons les saints qui sont le premier dimanche à la Pentecôte, après la Pentecôte, mais c'est une fête mobile, puisque ça dépend de la date de Pâques, et la date de Pâques n'est pas la même tous les ans. Et ça rentre avec le calendrier fixe, et nous sommes en ce jour à la troisième invention du chef de Saint Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le chef, c'est-à-dire la tête de Saint Jean-Baptiste.
Invention, c'est-à-dire la découverte.
Découverte, inventio, c'est le terme latin pour parler d'une découverte. Donc, c'est pas une invention au sens français contemporain, bien sûr.
Alors, pourquoi troisième ?
Pourquoi troisième ? Parce qu'il y en a eu une première et une deuxième. Alors, c'est la. Attendez que je retrouve mes notes. La première découverte, la première invention de la tête de Saint Jean-Baptiste a été réalisée au IVe siècle sous les empereurs Valens et Théodose le Grand, donc assez tôt, hein, dans les années 370-380. La deuxième a été effectuée sous l'empereur Martien en 451, et la troisième, qui est fêtée en ce dimanche, qui est dans le calendrier julien, le 25 mai, eh bien, la troisième eut lieu vers 850 sous l'empereur Michel III de Constantinople. En fait, c'est trois fêtes d'invention du chef de Saint Jean-Baptiste. Rappelons que ce chef avait été coupée par Hérode, qui avait décapité Saint Jean-Baptiste dans sa prison, c'est plus à chaque fois une translation de relique, en fait, hein. Et donc la troisième translation qui nous intéresse aujourd'hui, elle fait suite au fait que, après la deuxième translation, le chef de Saint Jean-Baptiste avait été déposé dans l'église dédiée à Saint Jean-Baptiste, à l'Hebdomone, à Constantinople. Mais au moment de la crise iconoclaste, on détruisait non seulement les icônes, mais on détruisait aussi les reliques des saints. Parce qu'il y avait toujours cette angoisse de faire de
De
l'idolâtrie.
l'idolâtrie, de l'adoration.
Voilà, c'était par contamination de la théologie musulmane qui s'approchait des murs de Constantinople. Et du coup, on avait caché cette relique pour la préserver de la destruction. On l'avait cachée dans une ville du Pont, de l'autre côté du détroit du Bosphore. Et une fois la paix de l'Église retrouvée, l'empereur Michel III, qui avait avec sa mère, la sainte impératrice Théodora, rétabli le culte des icônes, c'est la fête qui est célébrée tous les premiers dimanches de carême, ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie, eh bien, c'est ce même empereur qui avait ramené la précieuse relique du chef de Saint Jean-Baptiste à Constantinople, qu'il avait déposée dans le palais impérial. Alors, juste un mot pour.
Donc c'est ça la
C'est la
troisième.
troisième. Mais où est le chef de Saint Jean-Baptiste maintenant? Eh bien, il est à Amiens depuis 1206, dans la cathédrale d'Amiens. On peut le voir à Amiens, si vous voulez faire un pèlerinage en l'honneur de Saint Jean-Baptiste. Parce qu'en effet, lors de la malheureuse quatrième croisade, hein, ce sac de Constantinople par les croisés, excommunié par le pape, mais poussé par les Vénitiens pour
Pour
payer
des
les
raisons
Vénitiens, voilà,
financières.
pour des raisons financières, eh bien, on a mis à sac les églises de Constantinople, on a volé les reliques, et c'est comme ça que l'Occident s'est retrouvé tout d'un coup doté de fabuleuses reliques, dont le chef de Saint Jean-Baptiste, un chanoine de la cathédrale d'Amiens, le chanoine Vallon de Sarton, offre à l'évêque Richard de Gerberoy en 1206, en fait.
Et ce qui est contesté quand même.
C'est-à-dire.
Parce qu'il y a un autre chef
Oui, il
de
y a plusieurs.
Saint-Jean-Baptiste, notamment, moi je connais un à Damas,
Oui.
dans la grande mosquée des Omeyyades de
Voilà.
Damas, où il y
Alors,
a,
lequel est le vrai?
voilà, où il y a un énorme cénotaphe qui est censé
Oui.
renfermer
Peut-être
le
que c'est le
chef
corps, mais
de.
c'est le chef?
Je crois avoir toujours entendu
Le
dire que
chef.
c'était le chef de
Ouais.
Saint-Jean-Baptiste, mais comme c'est caché.
On peut pas
Les gens
analyser.
viennent prier, hein,
Oui, d'accord.
les musulmans viennent prier devant, mais on voit pas. Donc il y a un gros monument et fermé par des rideaux, et donc dedans, je sais pas trop ce qu'il y a, mais voilà.
Alors, très probablement, quand même, la relique de la cathédrale d'Amiens, c'est celle qui était exposée à Constantinople. Hein, donc, voilà. Alors, peut-être que celle de Constantinople a déjà été problématique. À l'époque, il y avait déjà deux chefs avec un autre à Damas. Hein, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est une fête. On va écouter le tropaire de cette fête, dont je vais vous lire la traduction. Comme un trésor divin caché dans la terre, le Christ nous a révélé ta tête, ô prophète et précurseur. Tous donc réunis pour cette découverte, chantons le Sauveur par des hymnes inspirés de Dieu, lui qui nous sauve de la corruption par tes prières.
Христос открыл главу Твою нам пророче и предтече, силу посошедшеся сия обретение, и с Небога глаголем и без способа Своим, спасающий нас от трения молитвами Твоими.
Voilà, vous venez d'écouter donc le tropaire de la fête de la troisième invention du chef de Saint Jean-Baptiste vers l'an 850 à Constantinople, chanté, alors je suppose, mais sans garantie, que c'est le chœur du monastère Sretensky de Moscou, même si on n'a pas une couleur de chœur un petit peu plus. Un peu moins fastueuse que d'habitude. En tout cas, l'enregistrement, je l'ai trouvé sur le site de ce monastère, donc il y a des chances que ce soit eux. Néanmoins. Voilà.
En tout cas, parce que j'étais en train de chercher pour
Ah, pour Damas.
le chef de Saint Jean-Baptiste à Damas, En tout cas, sur la basilique qui était à cet endroit, était dédiée à Saint-Jean-Baptiste, construite, elle remonte au 4e siècle.
Par Justinien, non? Non, par avant, par Constantin.
Voilà, après, on parle de reliques du précurseur, mais je ne sais pas si c'était vraiment le chef, peut-être c'était d'autres reliques. Mais c'est vrai on parle de sa tête.
Ah.
Voilà, mais j'en sais rien.
Donc mystère, mais enfin, c'est comme l'icône, c'est c'est l'hommage de foi que nous rendons à l'objet qui est transmis à celui qui le représente.
Voilà. Et je lis que selon un chroniqueur persan du Xe siècle, Ibn al-Fakir, lors des travaux d'aménagement, donc quand l'église a été transformée en
Mosquée.
mosquée, les ouvriers auraient découvert une chapelle souterraine abritant les fameuses reliques de Saint Jean-Baptiste. Et donc, sur l'ordre du calife Al-Walid Ier, elles auraient été conservées précieusement. Voilà. Mais je ne sais pas plus. C'est ce que j'ai trouvé en direct.
Si vous ne pouvez pas aller à Damas, vous pouvez aller à Amiens.
Et si vous ne pouvez pas aller à Amiens, vous pouvez aller à Damas.
À Amiens, où il y a beaucoup de pieux orthodoxes qui viennent en pèlerinage dans cette cathédrale catholique pour justement vénérer ce chef de Saint-Jean-Baptiste, parce que Saint-Jean-Baptiste, dans la piété et dans la liturgie byzantine, est très 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 présent en fait. Hein. Il a beaucoup de fêtes, on prie Saint-Jean-Baptiste dans beaucoup d'occasions. Voilà.
Mais il y a bien sûr la fête de chez chez les Byzantins, chez les Russes, la fête de la Nativité.
La fête de la Nativité, comme chez les Latins, la fête de sa
Donc le 24 juin.
décollation, le 24 juin, à la même date, la fête de sa décollation, le 29 août, hein, ça c'est les mêmes fêtes. Et puis il y a aussi une chose très intéressante, c'est la fête de sa conception. Donc on remonte 9 mois avant le 24 juin, on arrive au 23 septembre. Et c'est un point intéressant, alors je l'ai déjà dit dans cette émission, mais on peut le rappeler, c'est que lorsqu'on a fait les découvertes archéologiques à Qumran, on a retrouvé l'ordre de passage des différentes classes de prêtres dans le temple de Jérusalem. Et en fait, la classe d'Abdias à laquelle appartenait Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, est dans le service du temple en septembre. Et l'évangile rapporte que donc l'ange annonce à Zacharie qu'il sera père et lui se moque de cette nouvelle. Il en perd l'usage de la parole. Mais du coup, s'il est en service en septembre, si son fils est conçu en septembre, qu'il naît 9 mois après un 24 juin et qu'il devance de
Six
six
mois.
mois la naissance du Christ, la naissance du Christ est tout à fait probable un 25 décembre. Et donc, contrairement à ce qu'on affirme que Noël serait une christianisation d'une fête païenne, eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est que l'établissement de Noël est très ancien dans l'Église et qu'au 3e siècle, les empereurs païens, voyant l'importance que ça prenait à Rome, ont choisi de créer une fête du Sol Invictus qui n'existait pas avant pour justement essayer de démonétiser cette fête chrétienne qui commençait à s'imposer. Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas que le Christ n'est pas né un 25 décembre, c'est tout à fait plausible. Voilà.
Et à propos de Saint Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a aussi des fêtes pour la première et la deuxième
Oui,
invention?
alors, sauf qu'elles sont regroupées. Donc, elles sont toutes les deux le 24 février. Et encore une autre fête, une petite fête, mais c'est aussi. Une petite note particulière au rite byzantin, c'est que dans le rite byzantin, lorsque vous avez une grande fête, le lendemain de cette grande fête, on va célébrer tous les protagonistes secondaires. Donc, eh bien, du coup, le 6 janvier, c'est la fête du baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Et le 7 janvier est un jour dédié à Saint Jean-Baptiste pour, quelque part, le remercier de ce qu'il a fait le 6 janvier. Voilà, on le fête au lendemain du baptême du Seigneur.
Très bien.
Ça fait beaucoup de fêtes.
Oui.
Hein. Si je compte bien, ça fait 6 fêtes de Saint-Jean-Baptiste dans l'année liturgique byzantine.
Donc nous en avons terminé avec
Oui,
l'aspect fête liturgique.
tout à fait.
Donc nous allons revenir Pierre Ier,
Le grand,
l'empereur
oui.
grand.
Qui est pas encore grand, qui n'a que 27 ans,
Mais qui fait déjà 2,05 m.
Qui fait déjà 2,05 m, qui était, c'est vrai qu'il était grand par la taille, hein. J'avais jamais réfléchi à cet aspect aussi. Parce qu'on pense, quand on le qualifie de grand, aux grands actes qu'il va faire pour l'histoire de la Russie, mais il était très prosaïquement très grand, hein, un géant pour son époque, hein, 2,05 m. Il ne devait pas y avoir grand monde dans la population mondiale qui avait cette taille à cette époque, avec les conditions de nutrition qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Alors, quelques mots pour résumer rapidement l'épisode du mois dernier, si vous l'aviez loupé, mais vous pouvez l'écouter, bien sûr, comme toute cette série d'émissions dans les archives de Radio Courtoisie. On avait vu l'accession de Pierre le Grand au pouvoir, qui avait écarté la régence de sa demi-sœur Sophie. Et puis on avait vu finalement il avait constitué un noyau d'adolescents turbulents à Moscou en s'accoutumant avec des aventuriers qui sont devenus ses conseillers, ses généraux, ses amiraux, à la fois des Européens, même un Suisse qui était amiral de sa flotte, non sans succès, hein, c'est un grand personnage, le fort. Et il avait acquis une première victoire éclatante en s'emparant de la forteresse d'Azov, qui commande la mer d'Azov, qui était une principale place forte des Tatars musulmans de Crimée, sur laquelle, au cours des décennies, voire des siècles précédents, à plusieurs reprises, la Russie s'était cassée le nez. Donc enfin, les Russes arrivent à prendre Azov et on a un premier accès à la mer. Donc ça y est, on peut naviguer, on peut créer une flotte, mais pour créer une flotte, il faut savoir créer des bateaux, il faut savoir construire des bateaux, et ça nécessite des compétences techniques dans mille et un domaines. Donc en fait, Pierre, très intelligemment, a fait une mission sous couvert d'ambassade pour aller voir les techniques, notamment en Hollande, mais aussi en Angleterre, pour la construction des bateaux. Et il allait, après être passé à Vienne pour s'assurer d'une bonne connaissance des pratiques d'artillerie, il allait foncer sur Venise pour apprendre auprès des constructeurs de galères vénitiennes les meilleures techniques pour notamment la navigation en Méditerranée. Et il est obligé de rebrousser chemin, comme on l'avait dit.
Que se passe-t-il ?
Terminé par ça. Parce que, pendant son absence, on peut se douter que le chat n'est pas là, les souris dansent. L'absence du tsar ouvre beaucoup de perspectives là-bas, à Moscou. Donc, il y a des points de résistance, parce que on sent bien que Pierre Ier va être un réformateur de l'État russe. Il veut que les choses changent, il veut une armée moderne, il veut construire une flotte, une chose inouïe que la Russie ne pouvait pas imaginer. Et le tsar commence à porter ses premières atteintes aux usages et aux préjugés traditionnels. Et quelque part, ça va soulever naturellement contre lui beaucoup, sinon d'ennemis, de protestations. Parce que c'est un novateur. Donc, il renverse quand même l'ordre des choses et... une résistance sourde va se mettre en place. Et ça va être le début d'une lutte constante entre Pierre et les forces un peu qui tentent de freiner en fait cette évolution à marche forcée que lui veut conduire.
Est-ce que les milices sur lesquelles il s'était appuyé pour prendre le pouvoir ne vont
les
pas
les fameuses Strelsi vont justement alors il y a le tsar n'est pas là, et donc le tsar n'est pas là, et il y a toute une fermentation des esprits qui va se mettre en place, qui est due proprement à l'absence du tsar. Et donc, il y a des Raskolniki qui disent que l'Antéchrist est né, que l'Antéchrist...
Rappelez ce que c'est, Henri, les Raskolniki.
Les schismatiques, les vieux croyants, ceux qui avaient refusé les réformes du patriarche Nikon. Et donc, certains se mettent à prêcher que Pierre est l'Antéchrist, parce qu'il est né d'un adultère, puisqu'il est le fils de la seconde épouse d'Alexis. Alors, je vous rassure, hein, Alexis était veuf quand il a épousé Nathalie Narychkine. Mais voilà, donc sa mère Nathalie était la fausse vierge des prophéties, la femme adultère des prophéties. Donc, alors, il y a cet aspect un peu de folie, mais qu'on retrouve souvent dans l'histoire russe, hein, d'irrationnel. Et en même temps, il y a aussi, on l'a vu la fois dernière, pour financer la construction d'une flotte de guerre, eh bien, il faut des revenus à l'État. Et donc, les impôts ont augmenté. Et là, c'est aussi un autre aspect de mécontentement plus universel et qu'on retrouve sous tous les cieux à toutes les époques. Donc ça crée encore une nouvelle catégorie, une nouvelle classe de mécontents. Il y a un autre aspect aussi, c'est que le tsar agace parce que il fait confiance à des Allemands, il fait confiance à des aventuriers du dehors, il fait confiance à des gens Suisses. Qui ne parlent pas le russe, à des Suisses, à Lefort le Genevois. Voilà, et donc on va même dire que finalement le tsar est le fils de Lefort. Voilà, il y a des fausses nouvelles qui se répandent n'importe comment, n'importe où. On dit aussi qu'il est le fils d'un chirurgien allemand. Et puis, il y a une histoire qui va prendre beaucoup d'ampleur, c'est que... en fait, la mentalité populaire est choquée que le tsar ne soit pas là et qu'il soit allé courir l'Europe. Et ça, on n'a jamais vu ça de toute l'histoire de la Russie. Un souverain qui laisse la place et qui va visiter toutes les cours.
À moitié camouflé, en plus. Oui,
voilà. Et donc, le peuple russe de l'époque savait à peine distinguer entre un Turc et un Allemand, donc il ne savait pas ce que c'était que la France ou l'Angleterre. Bon, pour lui, tout ça était très inquiétant. Et donc, il y a une légende qui se forme, je ne veux pas mettre une pièce dans le cochon parce qu'il y a une expression qu'on emploie aujourd'hui, une fausse nouvelle, on va dire ça. Une fausse nouvelle, c'est que le tsar serait allé à la cour de Stockholm pour se promener déguisé en marchand et que la reine de Suède l'avait reconnu et avait tenté en vain de le mettre dans son lit. Et donc, Pierre se refusant, la reine de Suède l'aurait mis dans un cachot et l'aurait enfermé dans un tonneau hérissé de pointes à l'intérieur et l'aurait jeté en mer. Et qu'un Strelsi l'avait sauvé en prenant sa place dans le lit de la reine et en se laissant ensuite enfermer dans le tonneau. Alors, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais complètement abracadabrante, surtout que Pierre, pour le coup, n'est jamais allé à Stockholm, n'a jamais rencontré la...
Heureusement qu'il n'est pas allé prendre des leçons de construction maritime à Stockholm. Oui. Et donc, vous savez, il y avait un bateau qui est le fleuron de la flotte suédoise qui avait coulé dès sa sortie du port, à Sade, qui est toujours dans le port de Stockholm jusqu'à aujourd'hui.
Ah bon. Et donc, il y a une fermentation des esprits totalement délirante, en fait. Hein, et qui va donner l'occasion à deux parties d'essayer de faire une révolution. Bien sûr, les Strelsi, ça vous l'avez deviné, Benjamin, mais également les Cosaques, en fait. Hein, alors, les Strelsi, parce qu'on les a envoyés en garnison à Azov, sans leurs femmes, sans leurs enfants, sans leur commerce qu'ils avaient dû laisser à Moscou. À partir d'Azov, on les avait expédiés aux frontières de la Pologne. Là aussi, ils s'étaient mis à murmurer, puisque en fait, c'était pas une troupe régulière de combat, c'était un genre de super gendarmerie, en fait, hein, mais qui ne se destinait pas à aller se battre aux frontières. Donc, pour eux, beaucoup ont déserté. Et en désertant, ils reviennent à Moscou, évidemment, pour retrouver leurs femmes, leurs enfants et leur commerce. Et ça va faire des troubles dans la capitale, des émeutes. Il faut essayer de les mater. Et puis là, ils vont s'adresser à leur ancienne patronne, c'est-à-dire à la princesse Sophie, l'ancienne régente
qui est au couvent, voilée,
qui a pris le voile forcé par son frère Pierre. Et donc, ils lui écrivent en disant « Prenez notre tête, marchons sur Moscou, on n'a plus de nouvelles du tsar, il a disparu, il a été jeté en mer en Suède, etc. » Donc, il faut que vous assumiez le pouvoir, parce qu'en gros, on n'a plus d'empereur, puisqu'il n'est plus là. Et donc, évidemment... alors, il faut dire aussi que Pierre avait été marié. Hein. J'avais évoqué l'épouse de son demi-frère la fois précédente, la femme d'Ivan V, qui était co-tsar avec lui. Mais lui, il avait épousé Eudoxie Lopoukhine, qui était une fille d'un grand officier de la couronne. Et de cette union étaient nés trois enfants, très rapidement d'ailleurs. En 1690, le tsarévitch Alexis, qui est l'héritier du trône, qui va faire un mariage européen en 1711 avec Charlotte de Brunswick-Lunebourg. Et puis deux enfants qui vont mourir très tôt. Et du reste, ce qui est un peu tragique, c'est que Pierre n'assistera même pas aux funérailles de ses enfants morts à 1 an. Quoi. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Bon. Et en fait, la tsarine, Eudoxie, va être partie prenante de la conjuration qui se met en place parce que les Strelsi répandent la nouvelle que les grands boyards veulent faire périr son fils Alexis. Elle va rentrer dans cette sédition qui se met en place. Et voilà. Alors évidemment, la conjuration ne reste pas secrète, est éventée. Et cette sédition à la fois un peu fanatique, passionnelle, tellement russe aussi, hein, quelque part, va susciter une réaction de l'administration impériale régulière et de l'armée régulière. Et les généraux Shine et Gordon, les compagnons de route de Pierre, prennent la tête des troupes régulières et vont engager le combat avec les Strelsi. Voilà, alors ceci.
Donc eux étaient restés en Russie.
C'est un combat assez simple. Oui, ils étaient pas dans la grande ambassade. Et alors quelques coups de canon, et ça y est, les rebelles se.
Ça va peut-être être l'occasion de dissoudre ces fameuses récits.
Donc c'est quelques coups de canon et puis la rébellion s'arrête immédiatement. Et Gordon et Shine vont mener une enquête et vont. Alors les enquêtes à l'époque c'est la torture, hein, clairement. Donc on torture, voilà. Et puis on pend 150 Strelsi, partisans de la révolte, et puis on met en prison tous les autres. Bon. Alors Pierre apprend cette nouvelle à Vienne, il était en chemin vers, il partait pour Venise, mais il trouve que ces deux généraux ont été trop doux, en ne pendant que 150 personnes. Donc en fait, alors il faut se souvenir qu'en fait, les Strelsi avait aussi été responsable d'un traumatisme d'enfance de Pierre, puisque c'était les Strelsi qui avaient imposé la régence de Sophie, sa demi-sœur, et que Sophie et les Strelsi avaient massacré toute sa famille maternelle, en fait. Hein. Donc, et que lui-même a eu peur pour sa vie, étant enfant. Donc il y a un vieux contentieux.
Même si c'est ensuite les Strelsi qui lui ont permis de faire le coup d'État contre sa sœur, la grande duchesse Sophie.
Mais voilà. À mon avis, ça reste un grief trop ancien et qui n'a pas disparu. Donc Pierre prend la décision de rentrer plutôt que prévu en Russie. Il va avoir deux actions en fait. Donc il revient à Moscou et l'Israël-ci, dans leur révolte, dans leur révolution en fait, hein, avait attaqué l'idée de modernisation que Pierre mettait en œuvre. Et ça se traduisait essentiellement par la barbe, puisque Pierre ça avait rasé sa barbe et tous ses amis étaient vêtus à l'européenne avec des petites moustaches, mais plus des grandes barbes. Donc, c'était soit glabre, mais souvent moustaché. Pierre lui-même était moustaché. Les longues barbes, en fait, avaient été le signe de reconnaissance des révolutionnaires, si vous voulez. Donc,
je m'étais toujours dit que vous aviez un côté révolutionnaire, Henri.
Oui, puisque je suis barbu, chers auditeurs. Et Benjamin est moustaché. Voilà. Donc, Benjamin est l'homme de la modernité et de l'Occident, et moi, je suis la tradition orientale.
Révolutionnaire. Et donc,
pour faire un peu le tri parmi les révolutionnaires, le 26 août 1698, de retour à Moscou, Pierre ordonne à tous les gentilshommes de la noblesse de se raser. Et lui-même va raser les principaux grands boyards, en fait. Hein, et il le fait sur la place Rouge. Et sur la même place Rouge, on dresse tout de suite après les potences pour l'Israël-ci, parce que 150 exécutions, c'est pas assez. Donc, le pauvre patriarche de Moscou, Adrien, essaie en vain de conjurer la colère du tsar, et il vient devant lui avec une icône miraculeuse de la Mère de Dieu. Et le tsar lui crie « Pourquoi as-tu déplacé cette sainte icône? Retire-toi et reporte-la à sa place. Sache que je n'ai pas moins de vénération que toi-même pour Dieu et sa mère, mais sache aussi que mon devoir est de protéger le peuple et de punir les rebelles. » Et la punition va être terrible. Elle a lieu le 30 octobre sur la place Rouge. Le premier jour, c'est un convoi de 230 prisonniers qui arrivent traînés dans des charrettes avec des cierges à la main. Alors la plupart sont déjà tellement torturés qu'ils tiennent à peine debout. Ils sont suivis de leurs femmes et de leurs enfants qui chantent les chants des funérailles. Ça met dans une certaine ambiance. Après la lecture de la sentence, comme il y a beaucoup d'exécutions à faire et qu'il n'y a qu'un seul bourreau, Pierre ordonne aux principaux officiers autour de lui d'assister le bourreau et de faire bourreau lui-même. Et lui-même va exécuter une partie de... Voilà. On sait qu'il y a au moins 5 têtes de rebelles qui ont été abattues à coups de hache par Pierre lui-même, en fait. Donc lui-même est le bourreau et il décapite sur la place Rouge. Il seconde son bourreau officiel, il n'hésite pas à mettre la main à la tâche. Et il oblige les grands seigneurs de la cour de faire la même besogne. Et le supplice va durer 7 jours. Au total, il y a plus d'un millier de victimes sur la place Rouge. Alors, on ne fait pas que des pendaisons. Hein. On le supplice de la roue, d'autres supplices très raffinés qu'on ne décrira pas. Chose horrible, détail horrible, le tsar ordonne que les corps restent sur place. Pendant 5 mois, on a eu tous les cadavres qui sont restés sur la place Rouge. Alors, on en a pendu, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, on en a mis sur tous les créneaux du Kremlin, sur les différents remparts de la ville, exposés comme ça, sur différentes places. Alors, c'était l'hiver, donc la décomposition était peut-être plus lente. Détail atroce, on va mettre les cadavres de certains des conjurés sous les fenêtres du couvent où est recluse la princesse Sophie, la grande duchesse Sophie, l'ancienne régente. Donc, sous ses yeux, comme ça, elle pourra contempler pendant 5 mois les cadavres de ceux qui voulaient la remettre sur le trône. Ça doit calmer quand même. La propre femme de Pierre, qui avait, semble-t-il, c'est même pas très assuré comme point, mais semble-t-il, montré quelques amitiés ou quelques soutiens au parti révolutionnaire, Eudoxie Lapoukine, la tsarine, est répudiée. On lui rase la tête.
Et on la met au couvent.
Voilà. Classique. Et vous avez raison, Benjamin.
Dans le même couvent que la
Non,
Grande-Duchesse.
dans un autre. C'est trop dangereux. Et donc, les Strelsi sont abolis. Et donc, le corps des Strelsi, qui avait plusieurs siècles d'existence, est définitivement aboli. Ce qui va laisser la place à de nouvelles créations étatiques plus modernes. Et ça va être évidemment une nouvelle opportunité pour la centralisation de l'État russe, en fait, parce que c'était un corps un peu franc et un peu turbulent par nature. On va avoir quand même des troupes régulières et plus faciles à contrôler qui vont être mises à la place. Alors, les Streltsy n'étaient pas la seule force militaire de l'ancienne Russie et dont les privilèges étaient devenus intolérables avec l'organisation d'un État moderne. Il y a aussi les
Les Cosaques.
Cosaques, voilà. Et alors, on se souvient, c'est des républiques guerrières. Hein, au départ, ce sont un peu des Robins des Bois, des justiciers, un peu. Voilà, qui s'agrègent toutes sortes d'aventuriers qui fuient les impôts ou le servage. Et ce sont des postes avancés de la Russie, en fait. Et ces Cosaquis, ces républiques guerrières et indisciplinées, ont été quand même longtemps le rempart de la Russie. Alors, rappelons les deux principales, les Cosaques du Dniepr, hein, les Cosaques Zaporoges, qui sont un peu en petite Russie, c'est un peu l'origine de l'Ukraine actuelle, et
Et
puis les
ce, dis
Cosaques du
donc.
Don, voilà, qui avaient été tout aussi turbulents, avec des épisodes qu'on avait vus à Astrakhan, qui avaient été aussi un peu compliqués à régler pour l'Empire.
Mais avant de développer sur les Cosaques, nous allons écouter le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, et ces Cosaques d'Ukraine, ces Cosaques du Dniepr et ceux du Don avaient aussi, souvenons-nous, suscité une grave difficulté dans l'histoire russe récente, que Pierre n'oubliait pas, c'était la création des premiers et seconds faux Dimitri, en fait, ces faux tsarévitch qui avaient causé tant de problèmes internes à la Russie.
Oui, à la fin de la dynastie
Et,
précédente,
exactement.
on l'a vu abondamment avec
Et
le temps des troubles, comme
voilà,
c'était appelé.
le temps des troubles. Alors en 1706, il y a une révolte des Cosaques du Don contre le gouvernement central de Moscou parce que le gouvernement entend leur interdire de donner asile aux paysans aux serfs qui fuyaient leur maître, en fait. Et c'était une chose traditionnelle, les Cosaques récoltaient tous ceux qui échappaient au servage par la fuite. Donc, et puis bien sûr, on essaie de leur faire payer des impôts, chose intolérable pour des guerriers libres à cheval qui ne sont pas sédentaires. Donc, les Cosaques du Don vont égorger le prince Georges Dolgoroucki, ami de l'empereur, qui était venu avec des troupes régulières pour les rendre à raison. Ils vont battre les troupes impériales régulières, ils vont même menacer la forteresse d'Azov, fraîchement conquise par Pierre. Et en même temps, ils protestent de leur fidélité au tsar et ils accusent les voïvodes d'agir sans l'ordre du tsar. Alors, Vassili Dolgoroucki, frère du prince Georges Dolgoroucki, qui a été tué par les Cosaques du Don, vient à la tête d'une armée pour les battre. Et les principaux chefs des Cosaques sont égorgés ou en fuite, et la Cosaquie du Don est réduite à rien, en fait, hein. Les principaux mutins sont pendus. Parmi les Cosaques, on en pend 1 sur 10, comme ça.
C'est
Sur une
une
certaine
bonne
paix,
moyenne.
voilà. Ça imprime dans tous les Cosaques du Don une terreur plus efficace pour les ramener à la raison, en fait. Et ça fonctionne. Alors ça, c'était dans le Don, sur le Dniepr, donc dans l'Ukraine actuelle. On se souvient, Mazepa était l'hetman des Cosaques. Hein. Alors un mot sur cet aventurier, je l'avais un petit peu évoqué la fois précédente, on va en parler un petit peu plus maintenant. C'est un ancien page du roi de Pologne, Jean Casimir. Et il avait fait donc cette fameuse aventure qui a inspiré tant d'artistes dans sa jeunesse. Il avait séduit la femme d'un noble polonais et étant surpris avec sa maîtresse, le noble l'avait attaché nu à un cheval et l'avait lancé dans la steppe au galop, poursuivi par des loups. Et il avait réussi à échapper aux loups et à se détacher. Et en fait, c'est un tableau qui a... Il y a plusieurs tableaux de... Alors, Lord Byron a fait un poème sur cet épisode. Horace Vernet a fait un tableau célèbre, mais ce n'est pas le seul peintre.
Qui est où ce tableau déjà ?
Je crois qu'il est à Avignon, il me semble. Alors, attendez,
Et puis l'opéra dont je parlais la dernière fois, l'opéra de Tchaïkovski.
Voilà.
Et donc c'est pas grave.
Oui. Alors, ce Mazepa avait pris le bâton d'Hetman des Cosaques Zaporoge.
Bravo, il est au musée Calvé à Avignon.
Avignon, oui. Et en fait, il avait été un fidèle de Pierre le Grand. Et le tsar l'admirait beaucoup, avait confiance en lui, confiance en son intelligence, en sa fidélité. Y a une chose un peu étonnante, c'est que pendant plusieurs années, une dizaine d'années au moins, eh bien, on vient dénoncer auprès de Pierre Mazepa en disant voilà, il complote contre vous, votre majesté. Et à chaque fois, Pierre va mettre en prison tous ceux qui viennent de dénoncer Mazepa. Et réciproquement, c'est-à-dire que Mazepa, à chaque fois, on vient d'essayer de le soudoyer pour qu'il quitte l'alliance avec Moscou, qu'il reprenne l'indépendance des Cosaques. Et à chaque fois, il transmet toutes les offres qu'on lui fait à Pierre. Ouais. Et voilà, les deux se vengent mutuellement et s'épaulent mutuellement. Donc ça fonctionne bien. Et ça va changer. Alors les Cosaques étaient divisés en trois parties. Un était depuis longtemps favorable à la Russie, un autre regrettait le joug polonais, et puis il y avait un troisième parti Cosaque qui voulait donner le pays aux Turcs en fait. Hein. En 1693, les Tatars de Crimée envahissent la Cosaquie du Dniepr, la Petite Russie, comme c'était son nom à l'époque. Les Tatars ne réussissent pas à remporter de succès éclatant. Et en fait, à ce moment-là, il y a des problèmes sociaux en Petite Russie parce que les Cosaques n'ont pas forcément le soutien de la population, car ils vivent aux dépens des paysans et des bourgeois des villes. Ils vivent un peu à leurs dépens en prélevant les biens qui leur sont nécessaires, comme tout bonne soldatesque qui se respecte. Et en fait, cette petite Russie, elle est colonisée aussi. Il y a des paysans qui viennent du nord de la Russie et qui s'installent et qui supportent de moins en moins bien ce joug de ces troupes turbulentes. Donc ça fait aussi un ferment un peu de difficulté. Hein. Les bourgeois des villes et les paysans des campagnes veulent de la tranquillité pour pouvoir travailler sereinement.
La fin de ces Cosaques.
Voilà.
De ces privilèges qu'avaient les Cosaques.
Donc Mazepa et les Cosaques deviennent odieux pour les classes paisibles et bourgeoises d'Ukraine. En même temps, Mazepa redoutait l'affermissement de l'État russe dans sa Cosaquie. Il se souvient qu'un jour, dans une orgie avec Pierre le Grand, Pierre l'avait saisi par la barbe et l'avait violemment secoué. Alors, je pense que c'était la détestation des barbes de Pierre qui devait expliquer l'épisode. Mais quand même, c'est pas passé aussi bien que ça. Bien sûr, on commence à mettre des impôts en place pour les Cosaques de Zaporoge, comme pour les Cosaques du Don, et évidemment, cet alourdissement de la pression administrative et fiscale va créer des prétentions d'indépendance. Alors, le Mazepa, il va lui arriver une chose un peu étonnante. On va lui faire pour une énième fois une proposition pour quitter le parti du tsar de Moscou et rentrer en communication avec le roi de Pologne, qui est aligné sur la Suède à cette époque. En Pologne, c'est Stanislas Leszczynski qui est roi. C'est une princesse...
le beau-père de Louis XV.
Voilà. Une princesse lui fait remettre un alphabet chiffré pour pouvoir communiquer secrètement avec le roi de Pologne. Et jusqu'à présent, Mazepa, à chaque fois qu'il avait eu ce genre d'approche,
Il restait fidèle,
il était fidèle à Pierre.
Et il dénonçait.
Il dénonçait. Et là, il reçoit une lettre de la princesse d'Oskaya qui l'entreprend pour gagner le parti du roi de Pologne et le parti de la Suède. Et en lisant cette lettre, il dit « Méchante femme, elle veut me détacher du tsar ». Donc il comprend bien la manœuvre, évidemment. Et au lieu de transmettre à Pierre, cette fois-ci, il ne se contente que de brûler l'épître et de brûler l'alphabet chiffré que la princesse lui a transmis.
Un premier signe.
Mais il n'informe pas. Donc, il ne rentre pas officiellement dans un renversement d'alliance en quittant l'alliance avec Moscou pour se tourner vers Varsovie, mais il ne dénonce pas. Et en fait, on verra ça une autre fois, mais il y a la guerre avec la Suède qui éclate avec la Moscovie, et le gouvernement central de Moscou demande aux Cosaques Zaporoge de, bien sûr, rejoindre les troupes russes et pour faire la guerre aux Suédois. Ça rechigne tellement que Mazepa va dire qu'il est malade, qu'il ne peut pas aller faire la guerre. Il va même recevoir l'extrême onction, parce que vraiment, il a l'arc de la mort, alors que c'est pas du tout le cas, c'est complètement chiqué. Mais il n'a pas envie de se battre aux côtés de Pierre, contre les Suédois. Donc, ça commence à sentir mauvais, en fait. Hein. Et en fait, dans l'entourage de Mazepa, il y a des gens qui sont au courant de la lettre de la princesse et de la tentative d'établir des liens, d'être soudoyé par le roi de Pologne. Et donc, eux vont aller retrouver Pierre à Moscou. Et en fait, Pierre va faire comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a choisi de l'approcher pour dénoncer Mazepa, il a toujours été fidèle à Mazepa, qu'il estimait. Et du coup, les dénonciateurs vont être torturés, mis en prison. Alors on les torture pour qu'ils avouent que c'est eux qui ont inventé l'affaire. Alors que pour une fois, ils avaient raison, ils avaient vrai. Et donc, c'est un peu problématique. Et en fait, lorsque les troupes suédoises approchent de Petite-Russie, alors Mazepa finit par sortir de son lit où il était soi-disant mourant, où il avait reçu l'extrême onction. Et en fait, il prend ses troupes cosaques les plus fidèles et au lieu d'aller combattre les Suédois,
il
passe du côté suédois. Alors évidemment, énorme déception de Pierre, qui avait mis toute sa confiance pendant des dizaines d'années envers Mazepa, qui avait torturé tellement de gens qui essayaient de lui dénoncer les actions de Mazepa. Euh, et, euh, Et donc là, c'est un anathème total. Hein. Il y a un anathème de l'Église contre Mazepa. Dans toutes les églises de Russie, on proclame que c'est un traître. Et Pierre va faire une chose que je trouve absolument géniale. Il va créer... Alors, il avait déjà créé des ordres militaires, hein, des ordres des décorations, etc. Il avait donné des décorations à Mazepa. Évidemment, il lui retire toutes ces décorations et il va le décorer de l'ordre de Judas. Donc, il crée l'ordre de Judas. Il en fait grand maître Mazepa.
Et ça a perduré, cet ordre de Judas, ou ça a été
Quand même. Et en fait, Mazepa fait un mauvais calcul parce que on le verra par la suite, mais les troupes de Russie
terminera par se suicider, je crois.
Sont victorieuses. La petite Russie est reprise en main par les troupes centrales régulières de Moscou, de Pierre le Grand, et la capitale de la Cosaquie, Zaporoge, la ville de Batourine, hein, qui était une ville importante. Hein. Bon, elle rivalisait pas avec Kiev encore, mais quand même, c'était une ville principale. Maintenant, c'est réduit à un tout petit village aujourd'hui. Mais donc, Batourine, la capitale de Mazepa, est rasée, saccagée, bien sûr, est rasée. Et évidemment, tous les complices de Mazepa qu'on rattrape sont suppliciés. Voilà. Et lui-même va... alors, il va finir misérablement après la grande victoire de Poltava. Il va s'enfuir en Turquie et il va périr dans la pauvreté, en fait. Pierre fait lire un nouvel hétman des Cosaques, Skoropadsky, pour remplacer Mazepa. Et puis surtout, la masse du peuple se prononce énergiquement pour le tsar de Russie, et en fait les petits Russes ne veulent plus de ces Cosaques et ne veulent plus surtout à combattre les Suédois. Et lorsque les troupes suédoises pénètrent en petite Russie, eh bien le peuple va se soulever, et donc non seulement les Suédois auront à combattre les troupes régulières, mais il y aura aussi une guérilla importante de la population de petite Russie, l'Ukraine actuelle. Voilà. Alors, c'est pas complètement terminé avec l'indépendance de la petite Russie. Donc, rappelons, hein, les Cosaques de petite Russie, ce qui devient l'Ukraine aujourd'hui, avaient une certaine indépendance par rapport au pouvoir central de Moscou. Ils choisissaient eux-mêmes leur hôte. Hétman, leur prince, leur souverain.
Visiblement, là, c'est un peu moins le cas.
Là, ça va être moins le cas. Et puis là, non seulement, il y a toujours l'hétman qui est en place, mais on va lui mettre un genre de préfet, un fonctionnaire moscovite qui va venir et qui va être dans ses basques en permanence pour surveiller toutes ses actions. Les moscovites peuvent acquérir des propriétés en petite Russie, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, et ils vont pas s'en passer, et notamment Pierre va doter de domaines immenses et considérables la plupart de ses fidèles ministres et généraux qui vont recevoir des territoires immenses, en fait. Hein. Donc jusqu'à présent, la petite Russie était administrée par... c'était pas le nom de l'époque, mais on pour comprendre, dans l'administration moscovite, les affaires de petite Russie étaient gérées par un ministère des Relations extérieures, quelque part. Hein. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça passe à un ministère spécial petit russien. Donc, en fait, clairement, c'est l'autonomie de l'Ukraine qui disparaît à ce moment-là et son intégration dans la Russie impériale. Et lorsque le successeur de Mazepa meurt, eh bien, Pierre ne lui donne pas de successeur. Il déclare « Les trahisons des précédents hêtements ne permettaient pas de prendre à la légère une décision en cette grave affaire de l'élection et qu'il fallait se donner le temps de trouver un homme dont la fidélité fût assurée. » Donc, sous ce prétexte que...
On supprime le poste.
On supprime le poste, voilà. Alors, il a été rétabli plus tard au XVIIIe siècle, notamment par Catherine II.
À titre honorifique.
Voilà, exactement. Le dernier titulaire... abdique en 1789. Mais en fait, ce titre qui avait un peu un rang de prince des Cosaques Zaporoges, eh bien, n'a plus de réalité politique, à vrai dire. L'intégration définitive administrative se fera assez progressivement parce qu'elle sera vraiment effective sous Catherine II. Donc c'est une perte d'autonomie progressive des Zaporoges.
Et pareil pour le don
Pour le don aussi, oui.
Et il n'y avait pas aussi des Cosaques de la Volga ou c'est...
Oui, il y avait des Cosaques en... Et puis, il y a des Cosaques en Sibérie, en fait. Il y a des Cosaquis en Sibérie.
Avec le même système d'Etmana ou moins d'autonomie?
Non, moins d'autonomie. Mais... Il y a quand même toujours une... Ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un folklore cosaque en Russie, des descendants de cosaques. C'est une réalité sociale et culturelle importante encore aujourd'hui. Mais c'était quand même à la fois des auxiliaires importants pour l'État russe et en même temps un peu trop turbulents. Donc leur indépendance ne pouvait pas réellement continuer sur le long terme. Du coup, dès l'année 1709, eh bien, on peut dire qu'il n'existe plus dans l'Empire russe une force militaire qui puisse résister à la volonté souveraine du tsar, qui va évidemment être autocrate comme ses ancêtres Romanov et même antérieurement Ronov. Il va avoir donc les coups des franges puisqu'il n'y a plus les turbulences Streltsy, il n'y a plus les turbulents cosaques pour lui mettre des freins dans sa volonté de moderniser la Russie.
D'accord. Et en concluant là sur les cosaques et sur, oui. Sur Mazepa, je dois dire que je regrette beaucoup que ça soit pas que cet opéra ne soit pas programmé. Je crois que je ne l'ai jamais vu programmé à Paris.
Moi,
je l'ai vu à Lyon, à l'Opéra de Lyon. Il jouait beaucoup d'opéras russes, mais à Paris, c'est très, très peu au programme.
Jean Mazepa.
C'est très peu au programme, alors que c'est un très bel opéra, très belle œuvre.
Oui.
Si on aime Tchaïkovski, bien sûr, mais qui n'aime pas Tchaïkovski?
Oui, qui n'aime pas Tchaïkovski? J'essaie de retrouver les autres peintres. Voilà, Théodore Géricault a fait... c'est toujours le même thème, hein, toujours le même épisode qui a beaucoup inspiré les romantiques. Hein, Théodore Géricault a fait aussi un tableau. Le plus connu, c'est celui d'Horace Vernet, mais Eugène Delacroix aussi en a fait un. Louis Boulanger, qui est au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et Victor Hugo a fait aussi a dédié un poème inspiré de ce fameux et fier cosaque. Voilà, parce que le 19e siècle en France, on est traversé par cette recherche de la liberté, et quelque part c'était un grand exemple ancien. Voilà. Même si dans les faits, Mazepa n'était pas si héroïque peut-être. Voilà. Je pense pas que sa trahison de Pierre et son passage aux Suédois soit motivé par l'argent, mais plus en réalité parce qu'il sentait...
Il voyait qu'il était en train de perdre
toute l'autonomie qu'il avait. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Bien. Alors là, on va rentrer dans un autre épisode qui va être important pour l'histoire russe. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le traiter complètement, mais on va au moins le commencer aujourd'hui et puis on le continuera la fois prochaine. C'est la lutte contre les Suédois. Parce qu'évidemment, Pierre avait commencé, il avait découvert l'océan Archangel sur la mer Blanche, mais on avait vu que c'est une mer compliquée, bloquée à la navigation par les glaces une bonne partie de l'année. Il avait enfin vaillamment conquis un petit port sur la mer d'Azov, mais en fait, c'est vraiment la Baltique qui pouvait lui assurer des communications rapides, faciles et régulières avec l'Europe qui le fascine tant, avec la Hollande qui le fascine, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec la France, même si Louis XIV lui a fermé la porte au nez. Voilà, et en fait, Azov, c'est bien, mais c'est quand même très très long pour regagner la Hollande depuis Azov. Hein, et encore, il faut passer les Dardanelles qui sont contrôlées par les Turcs, par le Bosphore et tout,
Kerch déjà. Contrôlé par les...
Donc c'est quand même compliqué.
Bâtard.
Donc essayons de trouver, et quoi de mieux que la Baltique pour offrir un débouché facile au commerce russe et aux échanges avec le reste de l'Europe. Et évidemment, c'est la Suède qui pose problème, puisque on l'avait dit, c'est
la Baltique est un lac suédois.
Un lac suédois à l'époque. Hein. La Suède avait gagné des guerres contre la Pologne, qui avait perdu des territoires sur le sud. Il y avait le nord de la Prusse qui était aux mains de la Suède, et surtout la Finlande, la Courlande, les États baltes actuels, si vous voulez, et puis plus que la Finlande, c'est toute la Carélie, donc toute la région actuelle de Saint-Pétersbourg qui est suédoise.
On peut dire que la Suède était sortie grand vainqueur de la guerre de 30 ans.
De 30 ans, voilà, exactement. Et puis le désaccord entre les deux branches catholique et protestante de la même famille, hein, Vasa, avait été fatal à la branche catholique qui avait perdu face à la branche luthérienne, en fait. Hein.
Ce qui est assez incroyable, c'est de voir la puissance de la Suède comparée à son poids démographique, qui n'était pas du tout énorme comparé aux autres pays d'Europe. Hein,
c'était la grande puissance pendant la guerre de 30 ans.
Voilà.
Ouais.
Allié des Français.
Et Stockholm se trouvait être dans le barycentre de cette Méditerranée suédoise qui était la mer Baltique, puisqu'elle était vraiment au milieu des territoires contrôlés par la monarchie des Vasa, alors que maintenant, aujourd'hui, elle est finalement excentrée au milieu du pays, mais elle est en bord de mer. Bon, voilà. Et donc, pour percer une fenêtre sur l'Occident, pour la Russie, il fallait rompre, quoi qu'il arrive, cette chaîne des possessions suédoises sur les bords de la Baltique et des circonstances favorables se mettent en place. Déjà en Suède, les affaires ne sont pas si bonnes que ça. Le roi Charles IX Vasa était entré en conflit important avec l'aristocratie de son royaume. Il avait récupéré les terres qui avaient été aliénées par le domaine royal depuis l'année 1609 et qui étaient passées au grand du royaume. Et donc il avait quelque part ruiné l'aristocratie. Donc quelque part, il avait affaibli les cadres aussi de son État. Ce bras de fer avec la noblesse a été plus compliqué encore dans les anciens états contrôlés par les chevaliers porte-glaive, c'est-à-dire la noblesse allemande qui s'était installée dans les états baltes. Et en fait, toutes ces familles étaient des Allemands et contrôlaient le foncier avec des domaines importants. Et c'était aussi les cadres militaires de l'État. Se les aliéner, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Bon. Il y a un conflit. J'ai pas trop rentré dans le détail, ça ne nous concerne pas, mais c'est un élément important qui va expliquer aussi peut-être les difficultés de la Suède pour résister à la pression de Pierre le Grand. Auguste de Saxe va être approché par
Auguste de Saxe, le maréchal
Non, le roi de Pologne, pardon. Et en fait, la Pologne va se mettre en place, une alliance contre la Suède pour essayer de prendre sa revanche sur les pertes qu'elle a subies pendant la guerre de 30 ans. Et donc, le roi de Pologne va proposer une alliance. Alors ça, c'est du pain béni, c'est complètement improbable, à la Russie, son ennemi juré de toujours, pour attaquer de concert la Suède. Et ça ne se limite pas à la Russie. En fait, on va faire alliance également avec le Danemark, parce que le Holstein, qui est la partie sud du Danemark, appartenait à un beau-frère de Charles XII de Suède, en fait. Hein. Charles XII, qui est un peu jeune, qui a succédé à Charles XI et qui n'est pas encore très établi sur son trône. Donc,
Que le Danemark a des possessions aussi sur... côté suédois, en plus,
oui.
Des deux côtés du détroit.
Du détroit, tout à fait. Donc, voilà, on essaie... et en fait, celui qui a l'origine de cette conjuration est un certain Jean Reynaud Padcoul.
Et donc là, c'est un peu la première fois que la Russie se retrouve intégrée dans une grande alliance européenne.
Européenne, oui. Enfin... Non, il y avait quand même eu la Sainte Ligue contre les Turcs, mais voilà. Enfin, là, c'est une nouveauté. C'est la deuxième fois qu'elle est alliée avec la Pologne. voilà, et c'est pas si fréquent. Et donc, on va se dire que, comme le roi de Suède est jeune, il n'est pas,
pas
expérimenté, on se dit qu'on va avoir un prompt succès. Et donc, la déclaration de guerre devrait faire une guerre rapide et facile, sachant en plus les difficultés intérieures entre la noblesse et la couronne suédoise. Pierre va faire une déclaration de guerre en bonne et due forme, assez étonnante, un peu surprenante, en faisant des griefs plutôt puérils contre le gouverneur de Riga. Il fallait trouver un prétexte pour engager une guerre, même s'ils étaient complètement capillotractés et sans aucun intérêt.
C'était encore une époque où on cherchait des prétextes.
Oui.
Il n'y avait plus besoin.
De nos jours, c'est...
Il n'y a pas besoin
on
de prétextes.
On cherche des prétextes aussi, mais ils sont aussi capillotractés parfois.
Et comme on ne déclare pas la guerre, de toute façon.
Oui, en plus, oui. Pierre et les troupes russes arrivent sous les murs de Narva. Pour vous situer, c'est en Estonie et c'est la dernière ville estonienne avant la Russie aujourd'hui. Et c'est une ville qui avait déjà été.
Et qui contrôle une bande de terre entre un lac et le golfe de Finlande.
Et en fait, c'est une ville qui a déjà, dans son histoire, été plusieurs fois. Conquise par la Russie, ça a toujours été une pierre d'achoppement.
C'est pile au nord de Pskov dont nous avons parlé plein de fois dans les premières émissions.
Et en fait, c'était pas prévu dans les plans. C'est-à-dire que la Pologne, la Russie et le Danemark s'étaient entendus sur des buts de guerre et avaient prévu de dépecer la Suède, mais Narva, non, on n'avait pas attribué ça à la Russie, cette partie-là, l'Estonie et tout ça, on ne voulait pas que les Russes aillent par là. Auguste de Pologne hésite, mais finalement laisse faire Pierre le Grand. Et là, il y a deux phénomènes deux mauvais coups qui surviennent et qui sont malheureusement inattendus. D'une part, on pensait faire une guerre facile et gagner facilement, mais le roi de Danemark se fait battre. Il est lui-même menacé dans sa capitale, Copenhague, par les troupes suédoises. Il se voit contraint de signer une paix séparée, la paix de Traventhal, avec le roi de Suède. Et en fait, les Polonais qui étaient arrivés jusqu'à Riga, donc c'était bien pour eux aussi, parce que c'était quand même le souvenir de l'ancienne République des Deux Nations, puisque c'était les territoires lituaniens. Voilà, ils reprenaient la Lituanie historiquement, c'était un point intéressant. Donc les troupes suédoises font lever aux troupes polonaises le siège de Riga.
Donc à Riga, les Suédois l'emportent.
Les Suédois l'emportent. Et du coup, les Suédois n'ont plus que les Russes en face d'eux. Et au lieu de devoir mener trois fronts, ils n'ont plus qu'un front à mener. Et donc, c'est là où les choses vont se gâter pour Pierre le Grand. Il n'a pas énormément d'hommes à opposer aux Suédois. Alors, les chiffres sont contestés. Voltaire lui-même avait donné des premiers chiffres qu'il avait finalement pas rectifiés pour essayer de
d'évaluer les
ne
armées.
Pas gonfler aussi bien la victoire de Pierre le Grand. Voilà, donc en tout cas, Pierre n'avait que les Russes pouvaient aligner 63 000 hommes, et en fait, le tsar n'était pas avec eux, et en fait, les Suédois n'étaient pas si nombreux que ça, ils avaient à peine 8000 hommes. Donc 8000 face à 63. Le rapport
c'est
de force.
C'est assez déséquilibré quand même.
Et en fait, les Suédois arrivent à lever le siège de Narva. Donc c'est une défaite. Hein.
C'est étonnant parce que les Suédois qui avaient défait leurs ennemis précédents auraient pu regrouper plus d'hommes.
Oui,
peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps.
Ils n'ont pas eu le temps. Ouais. Et là, c'est la panique dans le camp russe. Alors les Russes crient, les Allemands nous ont trahis. Et donc les soldats russes commencent à égorger leurs propres officiers étrangers allemands parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont défaits par des troupes aussi peu importantes. Chemeretiev, le commandant de la cavalerie, se précipite dans la rivière de Narva, réussit à la passer lui, mais il perd 1000 hommes dans les flots en essayant de traverser le fleuve. Les deux seuls régiments qui se battent un peu pas trop mal sont les deux régiments fondés par Pierre le Grand, le Préobrajensky et le Semenovski, qui sont deux régiments formés à l'européenne.
Alors le premier, ça veut dire transfiguration, et le second,
le deuxième, je sais pas. et en fait, c'est une grave défaite. Les troupes sont coupées en deux on doit signer une capitulation honteuse en fait et déposer les armes. Alors du coup Charles XII laisse les débris de l'armée russe repasser la rivière et rentrer chez eux. C'est une défaite qui va couvrir Charles XII de gloire en fait. L'Europe entière le flatte. On frappe des monnaies, des médailles à son honneur. Et quelque part, c'est peut-être pas si bien que ça d'avoir un succès quand on est jeune et pas très expérimenté. Un de ses généraux va écrire à propos du roi de Suède, Charles XII, « Il ne rêve plus que guerre, il n'écoute plus les conseils, il prend l'air que c'est Dieu qui lui inspire directement ce qu'il y a à faire. » Ça pourrait rappeler d'autres circonstances. et en fait, c'est peut-être pas très prudent, comme on va le voir, mais je pense que le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin. Voilà, alors, dans l'affaire, c'est une grosse défaite pour l'armée russe, mais grâce à la reddition, en fait, une partie importante de l'armée revient quand même intacte. Pierre, comme il avait déjà expérimenté à Azov, il avait subi un premier échec et puis il avait clairement analysé les raisons de son échec. Il avait essayé de trouver ses raisons et de les combattre. Ça va être la même chose ici. Il va analyser les raisons de la défaite russe face aux Suédois. Il va surtout prendre la peine de faire une des fortifications très importantes sur les frontières russo-suédoises. Il va fortifier de façon moderne Pskov et Novgorod. Et donc là, avec la même énergie qu'il avait mise en œuvre pour créer une flotte russe moderne, il va faire une frontière fortifiée. Donc il va faire fondre les cloches des églises pour faire des canons, pour les mettre sur cette frontière. Il va employer des milliers de terrasseurs pour faire des travaux de fortification et de terrassement. Et en fait, il prépare la suite de la guerre, en fait, hein. Bon, même si on a une trêve, mais il tire la leçon, alors que en miroir, Pierre XII est enivré par
Charles XII.
Charles XII, pardon, est enivré par
La
sa
victoire.
victoire et ne va pas forcément se montrer très prudent pour la suite des opérations que nous verrons la fois prochaine.
Eh bien, merci beaucoup, cher Henri. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la
Vous venez d'entendre le Libre Journal de Benjamin Blanchard, émission préenregistrée le 7 avril 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 6 juin de 18h à 19h30 et réalisée par Claudia.